Très bien, les enfants. Maintenant, mon boulot est de vous enseigner la théorie de l'évolution.
Oh mon Dieu!
Je suis de celles qui pensent que cette théorie est un ramassis de conneries. Mais je dois vous en parler malgré tout. Elle fut élaborée par Charles Darwin et ça donne à peu près ceci. Au départ, selon cette théorie, on était des poissons. On barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille écureuil. Ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe poisson grenouille. Et ce singe poisson grenouille a réussi à enculer un chimpanzé. Et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé. Et ça a donné vous. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations.
Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. Salut à vous, amis du bon goût et de l'humour. Ouais, on commence un peu fort hein, avec South Park, mais ça va aller mieux après. Et c'était tout à fait dans le vif du sujet, puisque toujours dans la suite des conférences de Ultimate Z 2012, qui s'est déroulée donc le 30 juin et le 1er juillet dans le sud de la France, nous enchaînons aujourd'hui avec une conférence de Céline Petitjean qui va nous parler d'un sujet qu'elle connaît bien sur les êtres unicellulaires, précise-t-elle dans sa conférence, à savoir la théorie de l'évolution. Je vous laisse donc juste après une petite page d'humour chanté, hein, une chanson je crois qui est déjà passée sur le balado, c'était Jean-Michel qui l'avait mise, et je suis retombé dessus par hasard, et comme ça collait bien et qu'elle me plaît beaucoup, on va la réécouter en partie, et puis après on écoutera donc Céline Petitjean nous parler de théorie de l'évolution. Intelligent Design de New Amsterdam's, paroles de Roy Zimmerman.
Religion isn't science, that's what they always teach. But in our nation's classrooms, some people want to preach. Along with evolution, a secondary claim. It's really just creationism with a brand new name. Intelligent design, intelligent design. It's Darwin or the other way, the two just can't combine. Did we all evolve or was it something more divine? They want to teach intelligent design. We might not come from monkeys, the good book tells me so. Of pandas and of people is the good book students know. But politicians pander, we all know that's the case. They're making monkeys of us all by pandering to their face. Intelligent design, intelligent design. It's Darwin or the other way, the two just can't combine. Noah built the ark and hallelujah, it worked fine. That ark had an intelligent design. No matter how we got here, remember this I pray. When kids ask,
where'd we come from?
I say, the USA. We should always follow the simple golden rule.
Preach, brother.
Do unto others and then run. That's what I learned back in school. Intelligent design. We've all got our theories, you've got yours, and I've got mine. If there's one creator, Lord, just please give us a sign. Should we teach intelligent design? Design.
Ma présentation, je crois aussi que c'est une présentation que j'ai fait à Marseille il y a quelques mois. J'ai vaguement regardé ce que j'avais fait, donc c'était pas super fluide. Mais de toute façon, l'idée c'est plus d'essayer de réexpliquer rapidement et un peu simplement ce que c'est que la théorie de l'évolution, ce qui n'est pas très très compliqué en fait, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de voir. Et les questions sur l'évolution, c'est quelque chose qui ressort souvent. Je pense que tous les éthiciens sont confrontés un jour ou l'autre à des questions sur l'évolution du vivant. Et créationnisme et ce genre de choses. Et je pense que c'est bien d'en parler, de revoir un peu les concepts, et puis c'est mon boulot, donc si je peux répondre à vos questions, en fait l'idée c'est vraiment d'en discuter, donc j'ai un petit peu une base, mais après posez-moi des questions au fur et à mesure, si je peux répondre, je répondrai. Je sais pas tout non plus, hein, et donc il y a sûrement plein de questions auxquelles j'aurai pas de réponse, on pourra y réfléchir ensemble. Donc, avant de parler de l'évolution du vivant, je voulais juste vous présenter très rapidement ce qu'on connaît du vivant aujourd'hui. Donc ça, c'est un arbre, c'est ce qu'on appelle un arbre du vivant, qui représente les relations entre les différents organismes vivants qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, chaque triangle que vous voyez là correspond à un groupe d'organismes connus. Et les liens sont les traits qu'on voit ici, et ainsi de suite, sont les relations de parenté entre ces organismes. Donc tous ces organismes qui sont ici sont plus proches entre eux parce qu'ils ont un ancêtre commun qui est représenté ici. Alors ça ne concerne pas l'homme, hein, on est bien d'accord, l'évolution du vivant c'est autre chose. L'homme a été créé par Dieu il y a 6000 ans, mais pour les autres animaux, ils sont ici. Donc c'est quand même un groupe qui est assez minoritaire dans la diversité du vivant total. Pour vous donner une autre idée, les plantes sont ici, les champignons sont là. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'autres organismes vivants. On vous a sûrement déjà parlé de bactéries, elles sont là. Donc en fait, les organismes qu'on connaît et qu'on voit de façon générale sont hyper minoritaires par rapport à la diversité du vivant qu'on connaît, que les biologistes étudient en général. Et les étoiles représentent les groupes dans lesquels on voit des organismes pluricellulaires, donc comme nous, avec plusieurs cellules, et tout le reste c'est une seule cellule qui est un individu, c'est une cellule. Moi j'ai plutôt une formation de microbiologiste, donc ce qui m'intéresse c'est plutôt tout ça, et puis un peu ça aussi. Donc j'ai tendance à parler de l'évolution du vivant en parlant d'évolution de cellules et pas d'organismes pluricellulaires avec une reproduction sexuée et tout. Donc si vous avez des questions je vais essayer de répondre, mais c'est pas forcément ce que je maîtrise le mieux. Alors qu'est-ce que la théorie de l'évolution? Donc c'est bien une théorie aux sciences scientifiques du terme, avec un ensemble de proposition explicatives et prédictives qui ont été confirmées par des faits observés, et qui le sont encore, et qui sont testables par des dispositifs expérimentaux. On a des exemples d'expériences d'évolution et d'expériences qui prouvent qu'il peut bien y avoir évolution. Alors, qu'est-ce qu'elle propose? Qu'il existe une variabilité dans le vivant qui est due au hasard. Que certaines variations sont héritées des parents vers les enfants, et que sur le pool de variabilité qui existe, il y a une sélection qui est faite en fonction de l'environnement. Donc je vais détailler un peu ces points. Donc, l'une des caractéristiques de tout être vivant, c'est qu'il a tendance à se reproduire dès qu'on le met dans un milieu favorable. Donc il se multiplie. Ça, on l'observe pour tous les organismes vivants qu'on connaît. Et en fait, quand j'ai reproduction, c'est pas une reproduction à l'identique de type clonage où on prend un organisme et on le reproduit exactement à l'identique. C'est à l'identique mais presque, c'est-à-dire qu'en fait, il va donner à son descendant les caractéristiques de son type. Donc c'est pas hyper clair, mais c'est la meilleure façon qu'on trouve de l'exprimer. C'est qu'en fait, le descendant va pas être exactement le même à 100%, la réplique de son parent. Ça va être, il va avoir les mêmes caractéristiques globales. Là, vos enfants ne sont pas exactement comme vous, mais ils ont les mêmes caractéristiques, ils partagent les traits. Donc typiquement, si on met des organismes dans un environnement, donc les points bleus sont des organismes, le cercle orange c'est l'environnement dans lequel ils sont, ils ont de quoi bouffer, ils ont la bonne température, ils sont dans les meilleures conditions pour qu'ils se reproduisent, donc ils vont se multiplier jusqu'à manger les ressources et remplir totalement l'environnement. Et quand ils n'ont plus rien à manger, ils arrêtent de se reproduire en général. C'est là où il peut y avoir un problème.
On dit souvent ils meurent aussi.
Souvent ils meurent, mais c'est pas en fait tous. Il y en a qui peuvent juste arrêter et ils sont en forme de dormance et ils attendent d'avoir d'autres. De meilleures conditions et là ils peuvent recommencer. Enfin, la plupart d'ailleurs. C'est un peu nous qui ne sommes pas capables de
faire ça. Il y a la peine d'avoir plusieurs cellules.
Ah bah c'est pas très très utile en fait, ça consomme beaucoup d'énergie et ça permet pas de faire grand chose. Donc la variation, bon, qu'est-ce qu'on voit? Que globalement dans la nature, des organismes qui font partie d'un même groupe sont quand même se ressemblent, ouais. On est d'accord, mais sont quand même un petit peu différents les uns des autres. Donc ça se voit aussi chez les pigeons. Alors j'ai mis les pigeons parce que c'est un peu biaisé comme exemple, parce que ça c'est de la sélection artificielle. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a sélectionné les pigeons pour qu'ils ressemblent à ça à la fin. Mais Darwin s'est beaucoup basé sur les différences morphologiques de ces pigeons, parce qu'il faisait de l'élevage de pigeons, pour développer sa théorie. Voilà, c'est un petit hommage. Ils sont quand même bien différents, et pourtant ça fait, ils font tous partie du même groupe phylogénétique, ils ont un ancêtre commun. Donc, ces variabilités et ces caractéristiques sont héritables des parents vers les enfants, donc c'est pour ça qu'on peut faire des soucis. Et c'est porté par l'ADN. Donc, je ne sais pas si tout ce qui est information génétique, ça vous parle ou pas. On va refaire rapidement. Donc l'ADN, c'est une grosse molécule qui est contenue dans chacune des cellules des organismes, donc dans chacune de nos cellules, et puis dans les organismes unicellulaires, ils en ont aussi. Et en fait, c'est une molécule qui marche un peu comme un code, code informatique, on peut dire. Et il y a un message qui est codé avec 4 bases, donc ATGC. Je pense que ça, vous avez déjà tous entendu parler des ATGC. Si vous avez vu le film Gattaca, qui parle beaucoup d'informations génétiques, Gattaca, c'est fait avec les lettres ATGC, un par rappel à l'ADN. C'est bienvenu à Gattaca en français, je crois. Et donc en fait, c'est une immense molécule avec une succession de ces quatre lettres qui sont en fait des molécules. Donc on a des petites molécules qui sont retenues dans une grosse molécule. Et c'est la suite de ces lettres, donc de A, T, G et C, qu'on voit là et ici par exemple, qui va fournir en fait, comme dans un livre, qui va fournir une phrase qui va pouvoir être lue. Donc c'est un alphabet à 4 lettres par rapport à notre alphabet à 26 lettres qu'on a. Mais ça va pouvoir donner quand même un message qui peut être lu et interprété. Donc ce qui se passe, c'est que dans la cellule, il y a des machineries, des protéines qui vont lire l'ADN et qui vont transformer ce signal qui est codé en 4 lettres à un signal qui est codé dans un autre type d'alphabet qui va donner les protéines. Et c'est les protéines qui vont pouvoir agir à l'intérieur de la cellule pour pouvoir faire des choses. Si vous avez des questions, interrompez-moi. Donc, en fait, dans chaque cellule, on va avoir un tas d'ADN qui vont pouvoir traduits en plein de protéines, avec donc des différentes protéines et en différentes quantités. Et c'est cet ensemble de protéines qui va pouvoir donner la machinerie cellulaire, qui va avoir une action sur la cellule et donc sur le phénotype de la cellule. Donc, un exemple qui est assez simple, c'est le groupe sanguin chez l'humain. C'est-à-dire qu'on va avoir un gène qui est codé dans l'ADN qui va donner la protéine A, et le fait d'avoir cette protéine A dans la cellule va donner un phénotype groupe sanguin A. Alors, quand en fait la reproduction d'une cellule, c'est une cellule qui elle est une seule fois, et en fait elle va répliquer son ADN et se diviser, et donc ça va donner deux cellules différentes qui auront la même information. Donc la réplication se fait par une copie simplement de l'ADN pour qu'on ait deux fois le matériel génétique et que le matériel génétique puisse se retrouver dans les deux cellules ensuite. Donc la copie va se faire à l'identique, ou presque, parce qu'il y a toujours des erreurs qui peuvent se faire pendant la copie. Et donc c'est entre autres ça qui va donner les variabilités qu'on va observer. C'est-à-dire que en fait, entre la molécule de départ et la molécule finale, on peut avoir plein d'erreurs qui viennent, et on peut avoir d'autres facteurs de mutation ou d'erreur. Donc il y a les agents chimiques, des agents physiques aussi, donc les UV, c'est pour ça que les UV vont donner le cancer, c'est parce qu'en fait les UV vont venir modifier l'ADN à l'intérieur des cellules, et si on modifie trop l'ADN, ça va poser des problèmes sur justement les protéines qui sont exprimées, et ainsi de suite. Donc si on revient au groupe sanguin, on a le gène qui va coder la protéine A sur l'ADN. Si on a une mutation, donc à n'importe quel niveau, soit au moment de la réplication, soit après, on peut perdre une partie de l'information. Dans ce cas, il nous manque l'information sur le groupe sanguin. On n'a plus de protéine qui est exprimée dans la cellule. Et donc le phénotype, donc ce qu'on observe, ça va être un groupe sanguin de type O. Le type O, ça veut dire qu'il n'y a pas de marqueur en fait, alors que tout à l'heure on avait un marqueur qui était la protéine A. Donc, on revient à nos organismes. Donc on a toujours nos organismes qui sont les petits ronds. Et là, maintenant, on en a deux types, donc qui sont du même groupe, mais qui sont un petit peu différents, les roses et les bleus. Et le rose se reproduit trois fois plus vite que les bleus. Donc si on laisse le temps passer, on va avoir beaucoup plus de roses dans le milieu que de bleus. Donc ce qu'on va dire, c'est que la valeur sélective du rose est beaucoup plus importante que la valeur sélective du bleu. Parce que le rose se reproduit beaucoup plus vite, donc il va manger les nutriments, et il va laisser plus de descendants que le bleu. Donc il va laisser ses caractéristiques dans l'environnement, alors que le bleu va disparaître progressivement. Par contre, si on rajoute un prédateur qui va manger les organismes roses, vous voyez, là, on va avoir, les organismes roses vont diminuer, les organismes bleus vont avoir plus de place et plus de nutriments, ils vont pouvoir se développer, et à ce moment-là, en changeant simplement un paramètre dans l'environnement, on a une inversion de la valeur sélective, c'est-à-dire que les bleus vont avoir une meilleure valeur sélective que les roses. Donc ils vont pouvoir, avec cette petite variation de l'environnement, reprendre le pouvoir sur l'environnement en quelque sorte. Bah, une autre possibilité de changement d'environnement, c'est de mettre un nutriment qui est spécifique, que seul l'organisme bleu peut manger. Donc si il n'y a que l'organisme bleu qui peut manger, l'organisme rose il va un petit peu se multiplier, et puis le bleu par contre il va bien manger, il va bien se multiplier et il va prendre toute la place sur l'environnement. Et la sélection naturelle, c'est ça. C'est simplement que on a des phénotypes qui peuvent être un peu différents dans un environnement donné, et qu'en fonction de cet environnement, il va y avoir un organisme ou un phénotype qui va être favorisé, alors que les autres ne vont pas être favorisés. Mais ça, c'est vraiment dépendant de l'environnement. Donc quand on parle d'adaptation, il faut faire très attention, parce qu'on n'est pas adapté en général. On est adapté par rapport à son environnement. Et si l'environnement change, ça peut complètement changer la valeur adaptative et la valeur sélective d'un organisme. Et l'organisme qui va être favorisé in fine, c'est l'organisme qui a laissé le plus de descendants. Donc c'est pas forcément celui qui est le plus fort à un moment donné. Parce que s'il est le plus fort, c'est très bien, mais s'il se reproduit pas, ça sert à rien. Parce que tout ça, ça se passe dans le temps. Et la valeur temps, c'est quelque chose qui est hyper important en biologie. Et c'est vraiment cette variation qui est due au hasard et la reproduction des organismes qui, dans le temps, va faire qu'une sélection naturelle, en fonction de l'environnement, va se faire sur ces organismes et changer le type de population d'organismes qu'on peut avoir. Voilà, donc ça c'était vraiment sur la partie théorie de l'évolution. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Là, on le garde peut-être pour l'instant.
Comme vous voulez.
J'en ai plein, je vais poser
après. Bah, ouais, je ne sais pas, justement, ça peut être intéressant.
Non, c'est pas.
Ok. Alors, évidemment, sur tout ça, il y a plein de choses qui viennent se rajouter. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de dérives, il y a plein de trucs qui viennent, de paramètres qui viennent se rajouter à ces grandes lignes qui sont sur la théorie de l'évolution. Mais vraiment, le processus se passe de cette manière-là, avec beaucoup de variations. Je voulais vous parler un petit peu de phylogénie aussi, ce qui est très lié à l'évolution, mais ce qui n'est pas vraiment la théorie de l'évolution. En fait, la phylogénie, c'est les relations de parenté entre les organismes. Donc c'est vraiment qui est le parent, qui est le descendant, et qui sont les cousins, et ainsi de suite. C'est aussi utilisé comme le travail de reconstruction de ces relations de parenté. Parce que là, on connaît le vivant à notre époque, mais savoir quelles sont les relations de parenté entre les différents organismes vivants qui existent, c'est pas si simple, et c'est un travail de reconstruction. Il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le temps, justement, pour arriver à ce qu'on voit aujourd'hui comme diversité. Alors, je vous ai mis pour ça, pour illustrer la phylogénie, l'arbre que Darwin avait mis dans l'Origine des espèces, le premier arbre phylogénétique qu'il a fait. Donc en fait, il faut imaginer que là c'est avant, là c'est la dernière ligne, c'est l'actuel, donc c'est ce qu'on voit actuellement, et que chaque organisme est représenté par une feuille, donc c'est-à-dire un bout de l'arbre, donc l'arbre ici. Les branches qui sont là, ce sont des branches qui vont amener à la feuille, donc c'est une série de parents. Et ce qu'on voit ici, c'est-à-dire les nœuds, sont des points où il va y avoir une différenciation entre deux groupes, donc ce qu'on appelle une spéciation. Donc.
Oui, j'ai une question là.
Ouais.
C'est que entre chaque ligne,
ouais,
il n'y a qu'un trait. C'est-à-dire que par exemple, là, je vois, il y a un petit bouquet qui, ouais, part d'une ligne là.
Mmh.
À chaque fois, il y a genre 3-4 traits, il n'y en a qu'un seul qui va à la ligne suivante. Qu'est-ce qui définit l'état d'une ligne à une autre?
C'est un arbre qui est complètement théorique. Donc en fait, c'est vraiment. Il a mis les lignes parce que après, ça lui permettait de dire bon, ben, on voit qu'à cette étape-là, en fait, les nœuds sont toujours placés sur les lignes.
Mais il se passe pas forcément le même temps entre deux spéciations.
Non. Là, c'est un arbre qui est vraiment complètement théorique. C'est juste pour expliquer comment représenter les relations de parenté, parce que c'était quelque chose de complètement nouveau. Ce qu'on voyait dans. Bah, cet arbre n'est pas forcément. Mais sur celui-là, tu vois que les lignes n'ont pas du tout les mêmes tailles. Et ça, ça va avoir tendance à représenter le temps, justement, entre deux spéciations. Mais c'est pas forcément le cas sur tous les arbres. Ça dépend de la façon dont les arbres sont reconstruits et ainsi de suite. Ce qu'on représente. Oui, donc en fait. Est-ce que vous avez compris l'arbre ?
Oui.
Donc, quelque chose qui est vraiment très important, c'est que ce qui compte, c'est la relation entre. Pour comprendre la relation entre le chimpanzé et l'humain sur cet arbre, par exemple. C'est pas s'ils sont à droite ou à gauche, c'est vraiment le lien avec le nœud. Donc en fait, cet arbre, c'est exactement le même que celui-là. Donc, mais par contre, ce qui est assez fréquent, c'est qu'on représente l'arbre de cette façon-là, et du coup, l'homme est en bout de chaîne, et donc c'est très joli, parce que l'homme est au bout, il est arrivé en dernier. Mais en fait, le chimpanzé est au bout, il est arrivé en dernier, il est merveilleux. L'homme n'est qu'un rebut de l'évolution des singes. Ça revient exactement au même. Une autre chose qui est importante, c'est
en
aussi.
En fait, c'est l'erreur de dire l'homme des singes. En fait, c'est
l'homme
pas
l'homme
des singes. C'est l'homme et le singe ont un ancêtre commun.
C'est l'homme et un singe.
Ouais.
C'est exactement
en fait,
ce que
pardon,
j'ai.
L'homme et le chimpanzé ont
un ancêtre commun.
Ouais.
Ouais. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de décrire là. C'est que donc, l'homme et le singe ont un ancêtre commun qui est là. Donc, en fait, les descendants de cet ancêtre commun ont eu des différences qui ont fait en sorte que l'homme et le singe avaient des. L'homme et le chimpanzé, voilà, donc je viens de le faire, avaient des caractéristiques tellement différentes qu'ils n'ont pas pu se reproduire entre eux. Et donc, ça a donné deux organismes qui étaient très différents et qui ont évolué chacun de leur côté.
Et le gorille et l'homme,
ouais.
Ils
ont aussi un ancêtre commun qui est là.
Celui-là, mais qui est moins proche.
Alors, ce qu'on dit,
en
c'est que.
En comparant entre les deux ancêtres communs, homme et singe.
Chimpanzé
et homme et gorille.
Eh bien, cet arbre montre que le chimpanzé et l'homme sont plus proches entre eux
que
le chimpanzé et le gorille.
Est-ce qu'il y a une. À l'endroit où tu as mis le point vert,
ouais.
C'est quoi cette bête?
C'est.
C'est une mutation.
C'est le chaînon manquant, tu sais, du fameux.
Ouais, gorille. Voilà, ouais, c'est un peu ça. Et en même temps, si tu veux, il faut que tu considères que ce point-là, c'est vraiment quelque chose d'assez fictif parce qu'en réalité, tu as des générations, des générations et des générations. Et que cette branche-là, c'est quelque chose qui est hyper long. Et en fait, tu n'as pas eu le passage d'un singe primitif à l'homme. Tu as des milliers et des milliers d'années, milliards, pas des milliards, mais des millions d'années qui se sont produits. Et en fait, oui, ça va être un individu, ce point-là. Mais
il
en
a
réalité,
existé.
Il a existé, mais en même temps.
Ou c'est une mutation génétique qui a pu donner que ça diverge.
Mais c'est pareil en fait, parce que la mutation elle est portée par un individu. Donc tu peux pas différencier l'individu de la mutation.
C'est une variabilité plus importante qu'habituellement.
De quoi ?
Ce point vert.
Pas c'est plus importante, mais sur un gène plus critique.
Non, mais sur un gène plus critique. Donc c'est une variabilité qui, à un moment donné.
Ben, ça peut être. Pas... Ouais, enfin, c'est vraiment.
C'est un changement d'environnement, non ?
Pas forcément. Ben,
non, mais l'environnement
c'est les deux.
Change tout le temps.
C'est les deux, parce que si t'as plus un changement d'environnement, enfin, il faut qu'il y ait la variabilité qui existe avant, en fait. C'est
si
ça
il y a deux groupes
dire.
De l'espèce du point vert, un qui va habiter chacun des deux côtés de la montagne,
ouais.
Il n'y a même pas forcément besoin de chercher une mutation en particulier.
Voilà, c'est ça.
Au bout d'un moment,
c'est
ils
ça.
Finiront par se.
Exactement.
Ça s'appelle une spéciation.
Spéciation. En fait, ça vient du terme espèce. Donc, en fait, c'est la divergence entre deux espèces. En sachant que le concept d'espèce, c'est
ouais,
un peu flou, mais.
Justement, ouais, c'est pour ça que je voulais demander, c'est basé sur le fait de la reproduction ou pas?
Non. Enfin.
Parce que tout à l'heure, c'est ce que tu as dit.
Les descendants puissent pas se reproduire aussi.
Alors, chez les animaux. Chez... La plupart des animaux, je... on va dire chez l'homme.
C'est quoi la définition d'une espèce ? Une espèce, c'est ceux qui peuvent se reproduire entre eux ?
Non, parce qu'en fait, ça marche pour quelques animaux, parfois.
Mais il faut qu'ils puissent se reproduire. Il faut que les descendants soient fertiles.
Ouais, mais ça, ça marche pas contre non plus. Parce que si tu fais se reproduire un lion et un tigre en zoo, ça marche. Et les descendants sont fertiles. Parfois. Donc, est-ce que le lion et le tigre sont la même espèce ? Tout biologiste respectable te dira que non, quand même, faut pas exagérer. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le critère de mère, de dire que une espèce, c'est un groupe d'individus qui peut se reproduire entre eux et dont les descendants sont fertiles, mais en fait, ça marche pas, globalement. Et ça marche pas, ça marche chez quelques animaux. Et donc, comment on définit ça ? On définit l'espèce actuellement, c'est vraiment un concept qui fait tout. Darwin disait que l'espèce, c'est ce sur quoi le spécialiste, un spécialiste d'un tel groupe va dire que son espèce, c'est ça. Et c'est assez vrai. Et en fait, ce qu'on voit actuellement, c'est vraiment en termes de distance génétique. Ça va être... Oui.
Et le concept d'espèce, c'est plus simple pour des organismes unicellulaires ?
Non, c'est le bordel.
On reste avec l'homme.
En fait, justement, c'est un peu de là qu'est venu aussi tous les débats sur le concept d'espèce. C'est que les biologistes et les zoologistes avaient défini le concept d'espèce sur la base des animaux. Les botanistes l'ont récupéré, mais en fait, ça marche pas non plus chez les plantes. Et puis après, il y a les microbiologistes qui sont arrivés et qui ont dit « Ouais, mais alors là, chez nous, c'est juste pas du tout la même chose. » Parce qu'en fait, chez les animaux, il faut deux individus pour avoir un troisième. Mais chez les micro-organismes, il faut un individu, il se sépare et ça fait deux individus. Donc il a besoin de personne. Et le descendant, il est fertile puisqu'il va à nouveau se diviser et ainsi de suite.
Et donc, est-ce que le patrimoine génétique à chaque division, c'est exactement le même ?
Bah, c'est ce que j'expliquais au départ. C'est que ça va être exactement le même. Presque.
Mais c'est l'implantation que ça change ou...
C'est au moment de la... En fait, il y a les deux.
Au moment de la mitose, c'est pareil.
Ouais, c'est ça. Mais c'est... En fait, au moment de la réplication, de la division entre deux cellules...
C'est vrai qu'il y a des erreurs ?
Il peut y avoir des erreurs, parce que tu vas dupliquer l'ADN pour pouvoir mettre la même chose dans les deux cellules. Donc au moment où tu dupliques quelque chose, il peut y avoir une erreur. Mais il peut aussi y avoir des erreurs avant, avec justement les rayons UV et ainsi de suite qui vont modifier l'ADN. Où ça va peut-être pas se voir parce que la cellule n'avait pas besoin de cette partie-là de son ADN à ce moment-là. Mais par contre, chez le descendant, ça va pouvoir s'exprimer. Donc t'as les deux.
Pendant la réplication, pendant la mitose.
Ouais, c'est ça.
Il y a aussi des erreurs.
En fait, c'est délicat de mettre des points, tout simplement parce que t'as envie de dire, il y a une sorte de continuum, un peu comme si on disait que chaque individu est une espèce, même au sein des êtres humains, parce qu'on est tous différents, il y a des grands, des petits, des gros, des maigres. Et que dans ce continuum, il y a un moment où tu retrouves des caractères communs tellement forts que tu dis, bah, on va considérer ce groupe comme étant cohérent.
C'est un peu ça. Et surtout comme étant cohérent vraiment entre eux et assez différent des autres aussi.
En fait, Guillaume, une fois, tu disais que les espèces n'existent pas dans la nature, mais ils existent dans la tête du statisticien.
C'est ça. Je suis assez d'accord avec lui.
On est sûr qu'on ne peut pas se reproduire avec un singe ? On n'a jamais essayé.
Si, moi j'ai essayé.
Mais si, j'ai entendu. Ouais, mais t'as fait mal.
C'est
une bonne
question.
C'est
ça. C'est le tigre et l'aïe.
Est-ce qu'on a fait des tests systématiques in vitro entre plein d'espèces différentes, histoire de voir si ça pouvait marcher ?
Je pense pas.
Imagine qu'une fois sur 1000, ça marche entre un éléphant et un singe.
Alors après, il y a des barrières. Le problème, c'est qu'il va y avoir des barrières physiques. C'est-à-dire qu'un singe ne va pas pouvoir porter le bébé d'un éléphant.
Oui, mais in vitro, c'est pas la question. Après, le développement, c'est autre chose.
Si, parce que le développement est arrivé jusqu'à un organisme viable, c'est quand même hyper important, parce que sinon, si c'est pas viable, ça rentre pas dans le...
C'est-à-dire qu'en théorie, ça peut être commencé sans aller
jusqu'au...
J'imagine. Après, il y a quand même beaucoup de barrières qui existent.
Mais il faut un singe à long terme pour essayer, et puis comment se diviser.
Pardon, un éléphant et un singe ? Non. Alors, je pense pas, parce qu'en fait, au moment où les deux cellules, le spermatozoïde et l'ovule vont fusionner, il y a quand même beaucoup de machinerie cellulaire, de protéines et tout, qui sont à l'intérieur des deux, et qui vont rentrer en compétition, et qui vont pas être le même entre les deux cellules, et si c'est pas le même, il y a de fortes chances pour que juste ça avorte.
Mais à ton avis, ça n'a pas été testé, ça ? Parce que ça, c'est de la théorie.
C'est de la théorie. On n'arrive déjà pas à faire, à une cellule œuf avec le spermatozoïde ou avec deux ovules humains. Avec deux espèces différentes, oui, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes cellules, parce que si tu prends un ovule et un spermatozoïde de deux espèces différentes, ça pourrait marcher. Je sais pas si ça a été testé ou pas, à mon avis, non.
Parce que c'est tellement évident que c'est pas testé, mais justement.
Oui, bien sûr.
des présentations.
Ouais, c'est pas, il y a des barrières éthiques.
En direct sur Internet, je crois. Je sais s'il y a des gens qui viennent voir, poser des questions.
Ah oui, il y a des questions.
On va faire un atelier génétique ce soir.
Si tu acceptes qu'on fasse entre toi et quel animal.
Non, oui, au niveau éthique, ça va.
Tout ce qui se fait déjà sur les souris, tu peux
pas. Légalement, c'est quand même vachement codifié.
Non, mais d'un point de vue ontologique, c'est quand même discutable.
D'un point de vue éthique ?
Moi, scientifique et plus zététique, je discute une fois par semaine avec un groupe de croyants, une association d'étudiants qui sont très cultivés, c'est tous des ingénieurs, et ils acceptent l'évolution quasiment en entier. Tout ce que tu as dit là, ça ne peut pas être des arguments. Pour moi, qui fais un petit peu l'avocat du diable, on fait une
séance de contre-apologie. C'est intéressant.
Ça doit être pratique contre des créationnistes américains, par exemple, qui refusent entièrement quoi que ce soit de l'évolution.
Il y a plusieurs créationnismes américains.
Mais les Français auxquels je discute, ce n'est pas du tout ça. Eux, ils acceptent que les espèces évoluent à l'intérieur d'un groupe. Par exemple, les oiseaux évoluent entre eux, les espèces d'oiseaux peuvent changer, et peut-être que tous les oiseaux avaient un ancêtre commun. D'ailleurs, ils te diront, c'est ceux qui étaient sur l'arche de Noé. Donc eux, ils sont évolutionnistes dans le temps jusqu'à un moment. Et là, tu peux utiliser tous les arguments de la raison, du rationalisme et de l'expérience, et ils sont tout à fait d'accord avec tout ce que tu leur offriras. Et au bout d'un certain moment, en dessous, ils abandonnent complètement la raison, les preuves matérielles, et ils disent « c'est ma foi, à partir de là, je pense qu'il y avait un couple de zèbres et un couple d'oiseaux dans l'arche. » Et en deçà, si tu continues à argumenter à base de gènes ou de je sais pas quoi, tu attaques ma foi et je me sens agressé.
Ouais.
Et donc...
Déjà, je vais déplacer un tout petit peu le débat. S'il y a quelqu'un qui dit non, mais c'est vrai, les fantômes ça n'existe pas, tout ça, je suis en d'accord, hein, c'est vraiment n'importe quoi, sauf dans mon grenier, il y en a un. Tu lui réponds quoi? T'essaies de le prendre sur la raison, machin et tout? Enfin, je veux dire, il y a un moment où, si le type il est ok pour dire ouais, jusque-là ça marche, mais après ça marche plus, c'est à lui de justifier pourquoi après ça marche plus et pourquoi avant ça marchait. Ou l'inverse.
La justification, c'est j'ai la foi.
Ben oui, mais la foi, c'est pas quelque chose de scientifique.
Ouais, mais c'est la fin de la conversation.
Oui, bah dans ce cas, tu peux plus discuter. Voilà, parce que il est dans la foi et toi, tu parles de science.
Moi, il y a un truc qui m'a fait basculer, moi, là-dessus.
Les règles
de la discussion.
Moi, il y a un truc qui m'a fait basculer là-dessus. Enfin, pour moi, qui a été un argument et que j'ai trouvé convaincant et que je connaissais pas du tout, c'est en visitant le musée de la Muséum à Paris. Là, c'était un tableau d'anatomie comparée. Où, quand t'as l'impression qu'un pigeon et une chauve-souris et je sais pas quoi, c'est vraiment des vaisseaux qui sont vraiment différents. Et ben, tu te rends compte qu'en fait, ce qu'il montre, c'est donc la structure de la main, en fait la structure de l'épaule au bout de la main, et il montre ça sur une baleine, sur une main,
là,
l'être humain, et sur une chauve-souris.
Là, ça rejoint ce qu'il dit, c'est-à-dire que tu es dans le groupe des mammifères.
Oui.
Attention,
entre une chauve-souris, une baleine et il y en a une qui vole. Attends, il y en a une qui vole. Non, mais montre-moi pas ton arbre. Il y en a une qui vole, il y en a une autre qui nage. Il y en a une qui vole et qui est grosse comme ça, il y en a une qui nage et qui est monstrueuse. Et il y en a un qui est bipède et qui parle.
Tout le monde commence à se montrer leurs arbres les uns les autres. Peut-être trop bien le temps de l'exposer.
Oui, je pense qu'il vaut mieux.
C'est pas forcément le but.
Poser des questions avec. Non, parce que sinon.
La deuxième.
On a des précédents.
Allez, fâcheux.
Le deuxième endroit où ils abandonnent la raison, c'est pour l'être humain en particulier. C'est-à-dire
oui.
que
c'est
pour eux, là, il n'y a pas d'évolution possible.
Mais c'est pareil, c'est que tu es dans
ils un. L'existence de plusieurs espèces d'êtres humains dans le passé.
Oui,
vraiment, eux, par contre, les êtres humains, c'est qu'une seule ligne droite.
Mais tu ne peux pas discuter parce que tu n'es pas sur le même domaine. C'est-à-dire, quand tu parles d'évolution, c'est dans le domaine scientifique.
C'est-à-dire que ces gens-là, ils arrivent à cloisonner des sujets dans lesquels.
Mais moi, en tant que scientifique, tu ne pourras rien faire. Tu ne peux pas apporter des arguments scientifiques pour contredire une fois, puisque tu pas sur le même domaine. C'est vraiment.
Est-ce que tu leur as demandé à combien de millions d'années c'est remonté l'arche de
Noé?
Autant que tu veux. Si je leur
prouve que. Je n'ai pas le laptop sur
moi. Moi, je devrais, il y a des millions
d'années. Il y a des millions d'années. Eux, ça les dérange.
Ils sont terminés.
Bon,
j'essaie de. Céline,
c'est encore Serge,
pas l'image. Bon.
Donc justement, pour répondre à la problématique de l'homme, c'est quelque chose qui est bien différent des autres et tout. Et justement, est-ce que le singe est un homme ou est-ce que l'homme est un singe ou est-ce que l'homme descend du singe ce qui est important en phylogénie, et quand on travaille là-dessus, c'est vraiment les groupes qui, d'organismes qui descendent d'un même ancêtre commun. Donc c'est ce qu'on appelle un groupe monophylétique. Et donc là, l'homme, le chimpanzé et le gorille font partie d'un groupe monophylétique puisqu'ils partagent un ancêtre commun. Et donc c'est l'une des unités qu'on va étudier. Par contre, si on étudie seulement le chimpanzé, le gorille et le singe Congo, là on est dans un groupe paraphylétique, c'est-à-dire que oui, ils partagent bien un ancêtre commun qui est là, mais il n'est pas exclusif. C'est-à-dire que cet ancêtre commun va avoir d'autres descendants comme l'homme. Et donc quand on dit que l'homme descend du singe, en fait, on place le singe comme un groupe paraphylétique. C'est le groupe qui est là. Et en phylogénie, les groupes paraphylétiques, c'est des unités qui sont pas utilisables réellement. Parce que ça exclut quelque chose par rapport à l'ancêtre commun, et c'est l'ancêtre commun qui va nous intéresser. Donc là, pour revenir sur l'ensemble du vivant, donc je vous ai fait un exemple qui se place juste là, mais c'est pareil, tous ces organismes-là partagent un ancêtre commun qu'on place au centre. Donc c'est le Lucas, enfin qui est appelé communément Lucas, je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Non, c'est The Last Universal Common Ancestor. C'est un joli mot parce qu'il y avait Lucie, alors du coup Lucas, c'était pour lui donner un peu de pub. Et donc en fait, tous ces organismes, les animaux, les champignons, les plantes et tous les unicellulaires partagent un ancêtre commun. Et
créé par Dieu.
C'est l'extraterrestre.
Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ?
C'est Dieu, c'est Dieu. C'est le
point de départ. Créé par Dieu, exactement. Et c'est pas le point de départ.
Ah, c'est pas le point de départ ?
Mais non, parce que ça, c'est le dernier ancêtre commun. Ça veut dire que.
Ah oui.
À ce moment-là, il y a eu une divergence. Mais avant qu'il y ait cette divergence, il fallait des choses.
D'accord.
Et il fallait plein de choses pour pouvoir donner justement plein de variabilité et que ce soit Lucas qui soit sélectionné et qu'après, il y ait une divergence.
Ça se, trouve, il y avait déjà 1000 espèces, entre guillemets, mais c'est Lucas qui a gagné.
Alors, là, ça se voit à peu près, là. Ouais. Donc, c'est exactement ce qui est représenté ici. C'est qu'on peut considérer l'origine de la vie... C'est hyper théorique, c'est complètement schématique. On peut considérer qu'à l'origine de la vie, donc il y avait plein de choses. Il y a des organismes vivants qui ont commencé à se multiplier, à se spécier. Donc, tout ce qui est en gris, en fait, c'est des organismes qui ont disparu au cours du temps. Et ce qu'on voit actuellement, c'est ce qu'il y a là. Et en fait, en noir, c'est l'ascendance de ce qu'on voit actuellement. Donc, le dernier ancêtre commun, il est ici. Mais vous voyez qu'au moment où il vivait, il y avait énormément d'autres organismes qui étaient là, qui étaient présents. Et en fait, Lucas a simplement été sélectionné par rapport à une masse d'organismes qui étaient déjà vivants.
Là, ouais. J'ai mis mon veto. C'est... Typiquement, ce que tu viens de faire là, c'est je pense, ce qui est à l'origine de beaucoup de mauvaises compréhensions, c'est que tu as dit Lucas a été sélectionné. C'est ça. Et je pense que c'est le gros de la prise de tête là-dessus. Quand tu le posais comme ça, ça veut dire eh, ok, mais qui a fait la sélection ?
L'environnement.
Mais je pense que la plupart des gens ne comprennent pas comme ça.
Et ça, c'est
ou alors il y a un acte de « il a été sélectionné ».
En fait, il a été sélectionné par l'environnement.
Et en plus, à l'heure actuelle, c'est le mieux adapté, par exemple.
Non, parce que c'est pas le mieux adapté. C'est le mieux adapté à un moment donné dans son environnement. Et ça, c'est même pas sûr. Parce qu'il a pu avoir la chance. Alors ça, c'est un truc à banaliser. Je comprends totalement. Les organismes ne s'adaptent pas.
Ils crèvent.
Voilà. Ils en crèvent.
Ils sont adaptés à un moment donné à un environnement. Mais ça,
c'est
le truc terrible
aussi.
C'est un truc que même nous on dit régulièrement, c'est adapté, la protéine est apparue pour faire ça, et en fait c'est à proscrire définitivement. Oui.
S'il y a un Lucas là, c'est parce qu'on observe le present day et qu'on remonte dans le temps. Mais pourquoi il n'y en aurait pas deux Lucas?
Parce qu'il n'y en a qu'un seul, justement.
Par définition, sinon ce serait
pas
la
du tout. Pourquoi
il n'y aurait pas deux arbres là?
Alors attends. En fait, ce que tu poses comme question, c'est là, on considère qu'il y a un Lucas.
C'est le Lucas. Qui est déduit des espèces qui sont observables aujourd'hui.
Exactement.
On remonte, on arrive à Lucas.
Ouais.
Mais quand Lucas était là, il n'était pas tout seul.
Et en fait, si tu coupes ici, tu te places, imaginons qu'on n'est pas aujourd'hui, on est il y a 30 millions d'années. Tu coupes là. Alors là, tu dois reconstruire le schéma et probablement que le Lucas de cette génération-là, il n'était pas. Ici, il était peut-être ici.
Mais qu'est-ce qui te prouve qu'effectivement, le present day est issu d'un seul?
Alors, en fait, c'est
ça
parce que...
Ça pourrait être aussi issu de plusieurs.
Bien sûr, ça pourrait, tout à fait. Et en fait, si on considère actuellement qu'il n'y en a qu'un seul, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Chez les mammifères, on voit qu'il y a des structures qui sont conservées chez la chauve-souris, la baleine, l'humain, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est des caractéristiques communes. Et c'est là-dessus qu'on se base pour faire de la phylogénie. C'est qu'on considère qu'il y a des caractéristiques communes entre différents organismes, il y a de fortes chances pour qu'ils aient le même ancêtre commun.
Et... Non, il y a des fortes chances.
Oui, on est en probabilité, on n'est pas dans la vérité. Hein, c'est...
C'est faux.
Attendez, je veux finir là. C'est important. Justement, donc il y a de fortes chances, s'ils ont les mêmes caractéristiques communes, il y a de fortes chances pour qu'ils descendent du même ancêtre. Typiquement, deux frères et sœurs vont peut-être plus se ressembler que un des frères et sœurs à quelqu'un qui n'a pas du tout la même famille. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont un parent commun. Et en fait, sur tous les organismes vivants qu'on connaît actuellement, tous les organismes partagent des caractéristiques communes qui sont hyper fortes. Donc, au niveau moléculaire, donc ça va être difficile de vous l'expliquer, mais typiquement, il y a des machineries qui sont vitales complètement pour les organismes et qui sont très 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 ressemblantes au point qu'on considère qu'elles ont été héritées d'un même ancêtre commun et qu'elles n'ont probablement pas pu apparaître plusieurs fois indépendamment. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on se base. Et je peux vous en parler, mais je pense que les protéines ribosomales et la machinerie de traduction et de transcription, ça ne va pas trop vous parler. Il y a des métabolismes qu'on retrouve, donc la façon dont les organismes utilisent et construisent certaines protéines. Il reste 5 minutes. C'est des choses qui sont complètement vitales pour les organismes et qu'on retrouve dans les trois groupes du vivant. Et on voit que dans chaque groupe, ça évolue de façon particulière, mais que ça vient de quelque chose de commun, très probablement. Et donc c'est pour ça qu'on fait l'hypothèse qu'il y avait un ancêtre commun à tous les organismes connus actuellement.
L'évolution prébiotique, c'est en fait le même schéma finalement que...
C'est différent, c'est parce qu'en fait c'est ce qui se passe avant l'origine de la vie. Et définir l'origine de la vie, c'est pas clair du tout. Donc du coup l'évolution prébiotique, c'est ce qui s'est passé avant la vie. Et
c'est des recherches.
Moi, j'aimerais que tu me réexpliques pourquoi, si je coupe le graphique il y a 30 millions d'années, je ne retombe pas sur la même commune.
D'accord. Si, tu vas retomber sur la même... Sur l'ancêtre, la branche...
Il va y avoir un ancêtre, mais peut-être pas celui-là.
En fait, là, tu vois qu'il y a des traits gris qui vont à peu près jusque-là. Par exemple, ce trait gris là, tu vois, si tu suis le chemin de ce trait gris, tout ça c'est ses parents en fait. Donc tout son ascendance vient là, ici, là. Bon ben voilà, on arrive à l'origine de la vie. Donc en fait, ils sont bien reliés, cet organisme là, il est bien relié à celui-là, mais il n'est pas relié par cet ancêtre là. Il est relié par cet ancêtre là. Et donc si tu considères cet organisme là, tu vas être obligé de considérer l'ancêtre commun de celui-là avec celui-là, et il sera ici. Donc l'ancêtre commun de ces organismes plus celui-là va être là. Est-ce que c'est plus clair ?
On descend des cyanobactéries.
Oui, c'est faux.
D'accord.
Les cyanobactéries, elles sont...
Ça rentre en contradiction avec ce que je vois là.
Alors, par contre, les cyanobactéries, c'est faux, c'est tout le temps. Par contre, c'est plus compliqué que ça parce que le groupe qu'on voit là, ce sont les eucaryotes dont on fait partie. En fait, l'événement de spéciation qu'on considère là, en fait, c'est un événement très particulier, c'est-à-dire que notre ancêtre commun a chopé une bactérie qui était une alpha-protéobactérie, c'était pas une cyanobactérie. Mais c'était une alpha-cyanobactérie ancienne, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui était bien différent, qui vivait à l'époque, qui vivait à la même époque que notre ancêtre. Et en fait, ils se sont associés. Et maintenant, c'est ce qu'on appelle la mitochondrie actuellement. Et ils se sont associés, et donc on a cette espèce d'ancêtre des cyanobactéries, descendant de l'ancêtre des alpha-protéobactéries à l'intérieur de nos cellules. Donc en fait, on ne descend pas d'une alpha-protéobactérie. Par contre, on a dans nos cellules des descendants de vieilles alpha-protéobactéries. Et chez les plantes, il y a eu le même phénomène qui s'est produit avec une ancienne cyanobactérie. Donc je pense que c'était peut-être lié à ça ce que tu as entendu sur les cyanobactéries. Ouais. Mais on ne descend pas des cyanobactéries.
C'est vraiment en essence, mais c'est plutôt un échange entre.
Et il y a eu effectivement ce qu'on appelle des endosymbioses. C'est-à-dire une symbiose, c'est la situation entre deux trucs. L'endosymbiose, c'est qu'il y en a un qui rentre
par. On peut récupérer des caractéristiques sans descendre de.
Ouais, ça, oui, c'est enfin, possible. C'est possible. Et c'est aussi un large débat que j'ai pas voulu. Ouais, mais c'est super intéressant aussi. Et...
Ouais. Vous vous accordez sur une définition claire et précise sur la vie?
Non.
Non, plus d'accord. Merci. Donc, l'origine de la vie,
c'est une science, mais il n'y a pas de définition.
Ça, en fait, ça va pas mal ensemble, ces deux problématiques. Qui ouais, sont, l'origine de la vie, c'est abordé par tout ce qui est exobiologie. C'est le bordel, mais c'est super intéressant.
Ouais.
Et l'origine de la vie, c'est une question un peu. Bah, un biologiste n'a pas besoin de savoir ce que c'est que la vie. Il n'a pas besoin d'avoir une définition de la vie pour travailler dessus.
D'accord.
Comme un physicien n'a pas besoin du temps, s'il y a des physiciens, je m'arrête, mais un physicien n'a pas besoin d'une définition du temps pour travailler avec le temps. Donc, on a des choses, c'est un peu comme l'espace. On travaille sur quelque chose qui existe, qui est là. On sait ce que c'est parce qu'on le voit et parce qu'on peut le manipuler. Mais le définir réellement, c'est autre chose. Et les problèmes de définition de la vie, c'est quelque chose qui est... On peut en parler, mais c'est vraiment... c'est super intéressant et c'est... Il y a plein de choses qui rentrent.
Moi, je remercie Céline.
Merci Céline.